Europe 1.
Patienter parfois des heures pour remplir son réservoir, une galère à laquelle de nombreux automobilistes sont désormais confrontés. Si officiellement la pénurie d'essence ne concerne que 12% des stations-service, dans le Nord, c'est particulièrement prégnant. Plus d'un tiers des stations sont concernées par des ruptures de stock pures et simples, provoquant de longues files d'attente ailleurs. Reportage de Maximilien Carlier.
Pousse. C'est bon.
Tom et Martin ont bien galéré toute l'après-midi. Impossible de mettre de l'essence, beaucoup de stations encore fermées. Résultat, ils doivent pousser leur voiture sur plusieurs centaines de mètres.
Le temps de trouver une pompe à essence, on a eu le temps de tomber en panne. Il nous restait 40 bornes et on a tourné les 40 bornes. On n'a plus rien là, ça y est.
Heureusement pour eux, dans cette station, il reste du sans-plomb. Ici, il y a une file réservée aux véhicules d'urgence. Noémie vient de faire le plein. Enfin.
J'étais en stress parce que demain je travaille et j'avais plus d'essence. Et je suis aide-soignante, donc voilà, je suis soulagée maintenant.
L'autre solution pour mettre de l'essence, c'est la Belgique. À la frontière, à Hertin, que des plaques françaises. Christophe patiente depuis une vingtaine de minutes.
Dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est 5 fois la file d'attente dans Belgique, quoi. Et là, je suis arrivé, la file d'attente, ça va. Parce qu'en France, j'ai pas réussi du tout, mais prendre de l'essence, même la nuit, c'est impossible.
Je préfère payer plus cher mon essence en Belgique, explique-t-il, mais au moins je peux me rendre au travail. Son plein va lui coûter 10-15 euros de plus qu'en France. Villeneuve d'Ascq, Hertin, Maximilien Carlier, Europe 1.
Et selon le représentant des pétroliers, la situation va s'arranger dès aujourd'hui grâce à des importations supplémentaires. On va rester dans les Hauts-de-France où, face aux pénuries, on a pris une décision rare, le recours au stock stratégique pour alimenter les stations-service. Explication du préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone nord, Louis-Xavier Thiraude.
C'est une mesure qui peut se produire quand on a des situations de difficulté d'approvisionnement, comme c'est le cas. Elle n'est pas si rare que ça. Ces stocks existent depuis dans le monde pétrolier depuis une bonne centaine d'années. Donc de temps en temps, on fait appel à eux,
oui.
Mais on a préféré ce choix. Donc plonger dans une rupture d'approvisionnement qui pourrait être plus grave et qui surtout pourrait avoir des conséquences principalement sur le secteur des transports, sur le secteur de l'agriculture et sur le secteur de la pêche. Donc on essaie au maximum de piocher dans ces stocks pour remettre à niveau le gazole et pour aider le secteur économique et le monde agricole.
Louis-Xavier Thiraude dans Europe Midi avec Romain Desarbres.
C'est la mobilisation générale qui donnera des résultats, appel lancé par Elisabeth Borne lors de la présentation du fameux plan de sobriété énergétique.
Oui, un plan dont nous vous dévoilions les grandes lignes dès hier soir sur Europe 1. La mesure majeure étant de limiter le chauffage à 19 degrés dans les appartements ou les bureaux. Et c'est là qu'on entend à nouveau parler d'un concept qui faisait fureur dans les années 70, la chasse au gaspille, Baptiste Morin.
Oui, chasse au gaspille qui se fera cet hiver sur cette musique que vous allez entendre. C'est celle du spot que le gouvernement va diffuser partout pendant l'hiver. La voici. Pour inciter les Français aux économies d'énergie, ça risque de nous rentrer dans la tête. C'est la campagne « Chaque geste compte », campagne qui décline 5 gestes principaux. Le premier, baisser votre chauffage à 19 degrés. Chaque degré en moins, c'est 7% d'économie d'énergie. Le deuxième, baisser votre chauffe-eau à 55 degrés et passer moins de temps sous la douche. Ça, c'est 10% d'énergie. Troisième geste, éteindre les appareils non utilisés ou en veille. 10% là aussi d'économie d'énergie. Quatrième geste, décaler l'utilisation de vos appareils hors période de pointe. Par exemple, lancer la machine à laver plutôt la nuit. Si tous les Français s'y mettent, l'économie serait de l'ordre de la consommation annuelle de Marseille, la deuxième plus grande ville de France. Cinquième et dernier geste, installer un thermostat programmable sur votre système de chauffage. 15% d'économie d'énergie à la clé. Voilà comment nous, particuliers, pourrons participer à cette mobilisation générale que le gouvernement appelle de ses voeux, avec un slogan qui lui aussi va nous rester en tête. Écoutez.
Chaque geste compte. Je baisse, j'éteins, je décale.
En effet, ça risque de nous rester en tête. Merci Baptiste Morin.
Et en pleine crise énergétique, cet appel au secours pour la filière alimentaire.
Oui, représentants des supermarchés, des industriels et des agriculteurs parlent d'une seule voix pour dénoncer la hausse disproportionnée des coûts de l'énergie. En clair, ce qui est dans nos assiettes risque à terme de nous coûter beaucoup plus cher, plus 15%. Le vice-président de la FNSEA, Henri Biespéré, est éleveur laitier dans les Pyrénées-Atlantiques. Il explique pourquoi l'État doit agir.
Vu l'augmentation des prix, forcément, il y a urgence à prendre des décisions. Il faut qu'il y ait une intervention de l'État, donc soit pour limiter l'augmentation des prix de l'énergie, soit pour le compenser par des aides directes Ou alors, la troisième solution, c'est que ces coûts supplémentaires soient répercutés aux consommateurs. Et là, probablement que l'État devra intervenir auprès du consommateur pour qu'il puisse continuer quand même d'avoir accès à la nourriture, en particulier pour ceux qui ont les plus faibles revenus. Moi, je ne suis pas étonné par la hausse annoncée de 15% du panier de la ménagère en bout de chaîne. Le choix va se poser à l'agriculteur. Est-ce que je rachète des jeunes animaux pour les engraisser, sachant que je vais payer un aliment plus cher et une énergie plus chère, ou est-ce que je ne remplis pas mon bâtiment? Donc derrière, si l'agriculteur ne remplit pas son bâtiment, c'est de la nourriture qui va manquer sur les rayons d'ici donc 4 à 6 mois, le temps d'engraissement à peu près des animaux.
Le vice-président de la FNSEA, joint par Aurélien Fleureau.
En Iran, deux Français accusés d'espionnage.
Oui, la télévision d'État diffuse aujourd'hui une vidéo de ce couple arrêté en mai dernier, Guillaume Dominguez. Une vidéo qualifiée d'aveu d'espionnage.
Oui, dans ce montage vidéo, on voit une femme coiffée d'un voile bleu à fleurs parler en français. Elle affirme être Céline Kohler et être agent opérationnel de la DGSE, le service de renseignement extérieur français. Elle déclare également qu'elle et son conjoint étaient en Iran pour, je cite, préparer la condition et les conditions à la révolution et le renversement du régime iranien. Dans cette vidéo, un autre homme qui s'exprime lui aussi en français, qui pourrait être Jacques Paris, affirme que l'objectif de la DGSE est de faire pression sur le gouvernement iranien. Des déclarations que Téhéran considère comme des preuves d'espionnage. Arrêtés en mai dernier, les deux ressortissants français sont accusés d'avoir organisé et financé des manifestations enseignantes qui touchaient le pays à ce moment-là. La vidéo est d'ailleurs publiée alors que le pays connaît un nouveau mouvement de protestation actuellement, cette fois-ci lié à la mort d'une jeune kurde de 22 ans il y a 15 jours. De son côté, le ministère des Affaires étrangères français qualifie cette vidéo de mise en scène révoltante et dénonce des aveux extorqués sous la contrainte n'ayant aucun fondement. Comme à son habitude, le Quai d'Orsay n'a en revanche ni confirmé ni démenti l'accusation selon laquelle Céline Kohler et Jacques Paris pourraient être et pourraient appartenir au service de renseignement français.
Guillaume Dominguez.
Restez avec nous dans quelques instants sur Europe 1. La voix d'un prix Nobel de littérature. Elle est française, l'écrivain Annie Ernaux. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, 19h, 20h.
Raphaël Delvolvé.
Il est 19h11 sur Europe 1. La suite du journal d'Hélène Zélani. Annie Ernaux devient donc la première femme française à recevoir le Nobel de littérature.
Oui, âgée de 82 ans, elle est récompensée pour le courage et l'acuité clinique avec lesquels elle découvre les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle. Voilà les explications du jury Nobel. Avec Nicolas Carreau, notre spécialiste des livres, on revient sur sa carrière.
L'engouement pour Annie Ernaux n'a jamais cessé de croître. On ne compte plus les thèses d'étudiants sur son œuvre. En mai dernier, Le jeune homme, son nouveau livre, seulement une quarantaine de pages, s'est classé parmi les meilleures ventes. Elle entre en littérature en 1974 avec Les armoires vides. Prix Renaudot en 84 pour La place. On retient aussi Les années en 2008, Mémoire de fille en 2018, deux livres cultes pour beaucoup. Elle se distingue par une écriture autobiographique, neutre, clinique, parfois crue, qui vise le vrai, dit-elle, sans artifice. Son œuvre tourne souvent autour de trois thèmes, la passion amoureuse, l'intimité et les transfuges de classe dont elle fait partie. À 82 ans, la romancière devient la 17e femme à obtenir le prix. C'est le 16e Nobel de littérature français depuis sa création en 1901.
Et Annie Ernaux s'est exprimée tout à l'heure depuis le siège parisien de son éditeur Gallimard. On l'écoute.
Je suis très émue, pour moi ça représente quelque chose d'immense. Recevoir le Nobel est pour moi une responsabilité de poursuivre. Une lutte souvent vaine que j'espère poursuivre en écrivant.
Annie Ernaux, nouveau Nobel de littérature au micro de Nina Droff. Emmanuel Macron salue sa voix, celle de la liberté des femmes et des oubliés du siècle.
Le football, place à la Ligue Europa ce soir, troisième journée.
Affiche à vivre en direct ce soir dans Europe 1 Sport, Rennes-Dynamo Kiev. C'est la première fois qu'une équipe ukrainienne joue en France depuis le début de la guerre en février. Et sa présence ce soir sur le terrain est déjà une performance, Jean-François Pérez.
Oui, depuis cet hiver, la vie du plus célèbre
célèbre club ukrainien, des dizaines de trophées dans son armoire, deux Coupes d'Europe dans les années 70, cette vie a basculé. Après les bombardements, l'arrêt du championnat, l'exode de la plupart des joueurs étrangers, le Dynamo a appris à se débrouiller malgré la fermeture de l'espace aérien national. L'équipe s'est relocalisée près de la frontière polonaise et avale des dizaines d'heures d'autocar chaque semaine pour rallier les aéroports voisins et les stades. À sa tête, un entraîneur d'exception, le Roumain Mircea Lucescu, une légende en Europe de l'Est. Malgré ses 77 ans, il n'a pas voulu lâcher ses joueurs et c'est dans un français impeccable qu'il en explique les raisons.
On doit vivre ces situations avec enthousiasme, avec la confiance. Il faut transmettre aux joueurs ça. Eux, ils sont dans une situation pas tellement bien pour pouvoir jouer le football. Les familles sont partout, éparpillées dans le monde. Le faire concentrer pour le match, c'est pas facile. Mais le comportement de mes joueurs est extraordinaire. Le football ne doit pas jamais s'arrêter.
Ce soir, Lucescu et le Dynamo Kiev tenteront d'inverser le cours d'une saison fatalement difficile. Déjà deux défaites en deux matchs dans cette Ligue Europa. Mais une victoire permanente, celle de continuer de jouer et d'exposer avec fierté les couleurs de l'Ukraine.
Rennes Dynamo Kiev, coup d'envoi à 21h et c'est donc à suivre en direct dans Europe 1 Sport.
Tiens, cette annonce ce soir, on s'en doutait un peu. Lionel Messi, le joueur du Paris Saint-Germain, annonce que le prochain mondial disputé au Qatar sera probablement son dernier. Tiens, la Coupe du Monde, le trophée vient d'arriver à Paris, Hélène.
Oui, et Europe 1 a réussi à le localiser dans un hôtel. C'est une exclusivité. Vous êtes justement devant cet hôtel parisien, Alexandra Gégy.
Oui, elle se trouve ici dans un coffre-fort, surveillé par des agents de sécurité privés, mais aussi par des policiers. C'est un traitement digne d'une haute personnalité, hein, d'après l'un des participants au dispositif. Et pour cause, la direction du renseignement de la préfecture de police aurait identifié plusieurs appels concernant des opérations de perturbation autour du trophée en raison de la polémique liée à l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar. Pourtant, autour de l'hôtel, rien ne laisse imaginer qu'elle s'y trouve. Aucun dispositif particulier n'est visible. À l'intérieur de l'établissement, l'équipe de l'hôtel mène une vie normale. Mais aux alentours de 17h, j'ai pu voir un chargé de communication de la Fédération française de football. Il a fait une courte apparition dans le hall avant de quitter les lieux. La Coupe du Monde devrait rester ici, dans cet hôtel parisien près du Trocadéro, jusqu'au 11 octobre. Entre-temps, elle quittera les lieux seulement quelques heures pour des opérations de marketing auprès des partenaires et sponsors.
Alexandra Gégy, ramener la coupe à la maison, on peut toujours rêver un petit peu, on ne sait jamais.
On sait jamais.
Un mot des vendredis thématiques d'Europe 1 cette semaine à l'occasion du bicentenaire du déchiffrage des hiéroglyphes par Champollion. Ce sera le thème pour demain, l'Égypte et les pharaons. Pourquoi est-ce que l'Égypte nous fascine tant? Pourquoi cette passion française? On vous donne rendez-vous demain dans toute la journée sur Europe 1. On passe en transition au marché financier avec Didier Hameau de Boursier.com. Bonsoir.
Bonsoir.
Et la Bourse de Paris est en légère baisse.
Oui, moins 0,8%, 5 936 points sur le CAC 40, un marché assez calme finalement. Le risque de récession économique qui se renforce a quand même pesé sur le secteur minier qui a reculé à l'image d'Eramet en chute de 20%, 67,85 €. Certaines grandes valeurs industrielles retombent aussi comme Arcelor, moins 4%, Vinci, moins 2,5%, Eiffage ou Bouygues, moins 2%. Ailleurs en Europe, c'était plutôt calme aussi. La bourse de Francfort cède 0,4%, Bruxelles moins 0,3%, Madrid moins 0,9%. Et donc le CAC 40 en baisse ce soir de 0,82%, 5 936 points.
Merci Didier Hameau.
C'était La Bourse avec la Caisse d'Épargne. 3000 experts en région aux côtés des professionnels et des entreprises. Caisse d'Épargne, vous être utile.
Et merci à vous, chère Hélène Zelani, que vous retrouvez demain pour un nouveau journal sur Europe 1, la météo.
Plein soleil sur votre cuisine de rêve. La météo avec Cuisine Référence, la référence des cuisines équipées sur mesure.
Et on retrouve Marlène Duret. Marlène, le temps reste calme et assez bien ensoleillé en journée demain.
Oui, Raphaël, une journée qui va commencer un petit peu comme ce matin, sous la grisaille ou les brouillards. Conditions anticycloniques automnales obligent et ça va concerner tout particulièrement les régions allant du nord de l'Auvergne et de la Bourgogne, au Berry, à la Franche-Comté, à la Lorraine, à l'Alsace. Le Lyonnais aussi est concerné, donc c'est là que les brouillards et grisailles seront les plus nombreux. Des bandes grisailles également vont circuler à proximité des côtes méditerranéennes du Var, Var au Roussillon, jusque dans l'intérieur de la vallée de l'Aude. Et puis ailleurs, le soleil domine. Et je rappelle que quand le ciel est dégagé, les matinées sont fraîches. Alors, soleil parfois voilé, faut le dire, notamment en bordure de Manche. Il aura tendance à s'épaissir l'après-midi à l'approche d'une perturbation qui pourrait d'ailleurs donner quelques petites gouttes la nuit suivante. Soleil voilé également sur un bon quart sur d'ouest, avec le déclenchement de quelques averses sur le relief des Pyrénées.
Ah, il faisait bon hein, cet après-midi. J'ai même vu qu'il a fait jusqu'à 28 dans les Bouches-du-Rhône.
Absolument, Raphaël. À Trets, c'est une petite commune située dans la haute vallée de l'Arc, au pied de la Sainte-Victoire du Mont Olympe, du Mont Aurélien et de la chaîne du Regagnas. Bon, ouais. Pour faire une petite...
Petit tour de géo.
23 degrés à Annecy, c'est 5 degrés au-dessus des moyennes de saison. Et pour demain, eh bien, écoutez, les maxis afficheront 17 à 21 degrés sur la moitié nord et 21 à 26 sur la moitié sud, avec 26 par exemple à Agen ou à Auch.
La météo et la géo avec Marlène Durec, que vous retrouvez à 23h pour un nouveau point sur le temps, les couleurs du ciel. Dans quelques instants, nos commentaires, nos analyses avec ce soir Louis Osalter, journaliste à Marianne, la communicante Émilie Zapalski et l'universitaire Benjamin Morel. On va notamment revenir sur le plan de sobriété énergétique dévoilé aujourd'hui par le gouvernement. A tout de suite sur Europe 1.
19h, 20h.
Raphaël Delvolvé.